Nous avions tenté d'expliquer la réforme du bac lorsqu'elle a été annoncée par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Aujourd'hui mise en place pour les élèves de seconde et de première, nous avons voulu savoir quel impact elle a eu en cette rentrée 2019 sur les conditions de travail des professeurs, la préparation aux examens, l'enseignement, la vie des élèves. Nous avons posé nos questions à Sarah, professeure d'italien et d'histoire des arts, adhérente à la CGT Éducaction.
En général, pour une réforme, enfin ce qui paraît logique, on réforme une année après l'autre. Par exemple, la logique, ça aurait été éventuellement de réformer les secondes cette année, qui serait du coup passé en première l'année prochaine, puis en terminale, et pour arriver à un bac 2022. Sauf que là, très clairement, on voulait les premiers bacheliers en 2021, du coup avant la fin du quinquennat, et donc on a précipité les choses, et réformé les secondes et les premières en même temps. Ce qui a donné, des absurdités, hein, c'est qu'on a demandé aux élèves de choisir leur spécialité alors que c'était pas encore très très clair. Par exemple, les programmes sont changés, donc ça fait qu'en histoire, potentiellement, ils auraient fait des choses en seconde qu'ils vont devoir refaire en première. Bon, après, les profs, comme toujours, vont colmater et s'arranger pour que ce soit cohérent. Mais donc, les élèves de première ne sont pas orientés, comme c'était le cas avant, en S, ES ou S. Mais donc, on choisit des spécialités qui ne sont pas facultatives, qui sont obligatoires, mais qui étaient au choix, en leur disant « choisissez ce que vous voulez, épanouissez-vous, ne reproduisez pas les anciennes filières ». Beaucoup d'élèves ont voulu jouer la sécurité et ceux qui se seraient orientés vers une filière S ont pris maths, physique, SVT. Ils ont peut-être raison parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Après, en termes d'orientation, les élèves qui auront choisi cinéma, SVT, anglais. Donc ça, c'est une première chose pour ces élèves de première. Alors dès la rentrée, chose qui a un peu perturbé les collègues, moi en tant que prof d'option, je suis habituée. Mais les collègues de grosses matières obligatoires ont découvert ce que c'était de ne pas faire cours à un groupe classe, mais à un groupe qui vient de différentes classes. Donc en fait, les élèves de première se retrouvent en tronc commun, je crois seulement en français, en EPS, en histoire. Sinon, après, ils sont explosés dans des spécialités. Bon, ça donne des emplois du temps assez particuliers. Je crois qu'il y a des premières qui ont cours certains jours de 8h à 18h avec juste une heure de pause. Et ont par exemple 2 heures de cours le vendredi ou 1 heure de cours. Nous, on a très peur de ce que ça va donner l'année prochaine pour les emplois du temps, parce que pour l'instant, c'était que les premières. L'année prochaine sera première et terminale. Donc déjà, des groupes classes un peu éclatés, des élèves qui savent plus trop, qui n'ont plus tellement leur repère de la classe. Donc on nous a vendu un peu le modèle de l'université. C'est très bien, super, esprit amphi. Ça donne des conséquences qui étaient soi-disant pas trop prévues, mais qui étaient pourtant évidentes sur le papier. C'est que du coup, pour les conseils de classe, on sait plus trop sur qui on peut compter comme prof. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les conseils de classe se font en ligne sur Pronote. Donc, c'est super. Donc, ça augmente en plus notre temps de travail. Parce que comme on n'est pas sûr de pouvoir aller à tous les conseils de classe, donc tout se fait sur des fils de discussion en ligne. Donc, c'est pour le droit à la déconnexion, c'est super. Assez vite. Dans le courant de l'année, là, les élèves vont devoir choisir laquelle de ces 3 spécialités ils vont arrêter et pour n'en continuer que 2 en terminale. Donc ils ont 3 fois 4 heures et ils vont passer à 2 fois 6 heures. Alors ça ne me concerne pas moi, hein, mais ça concerne les profs de spécialité, c'est-à-dire qu'ils découvrent ce que c'est que de devoir se vendre pour pas avoir une fuite de leurs effectifs. Donc là, ça commence déjà à s'observer. Les premiers conseils de classe, là, la prof d'anglais, elle met 16 à tout le monde, alors que moi, j'ai 7 de moyenne. Donc obliger les élèves, ils vont choisir sa spé. J'ai 30 élèves qui vont continuer ma spé. C'est humain, en fait, c'est obligé. On a face à soi une trentaine, parce que c'est pas des groupes réduits, bien sûr, c'est 30 à 35 élèves, notamment en anglais. On a face à soi un groupe et c'est humain de faire en sorte qu'ils veuillent continuer l'année prochaine. Donc les élèves vont pas forcément choisir pour de bonnes raisons, ils vont voir où ils ont des meilleures notes, sachant qu'on a tous des cultures d'évaluation en fonction des disciplines qui sont très différentes. Nous, en langue, on a tendance à plus valoriser. Ça ne veut pas forcément dire que le niveau est meilleur, c'est vraiment une culture de notation et on aimerait bien garder cette spécificité-là. Mais sauf que forcément les élèves, eux, tout ça c'est chiffré, ils vont voir où ils ont des meilleures notes, ils vont voir aussi quel est le prof le plus sympa, sauf que l'année prochaine ils n'auront pas le même prof. Pour nous, les conséquences, c'est que moi je me demande bien ce que ça va donner en termes de... C'est-à-dire que jusqu'ici on avait une maquette, on avait tant de places en ES, tant de places en S, tant de places en L... Là, en fait, en fonction de ce que les élèves vont choisir, ça va devoir... on ne sait pas sur combien d'heures on va pouvoir compter en SES, en histoire. Et donc, bah, forcément, ça fait des conflits. C'est des postes hein, derrière. C'est pour les élèves et pour nous aussi, c'est compliqué.
Une des principales critiques qu'il y avait eu envers la réforme du bac, hein, annoncée par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, c'était aussi qu'elle était très floue. Donc, est-ce qu'il y a des surprises par rapport à ça ?
Moi, l'impression que j'ai pour l'instant, c'est qu'on avait peur et que c'est pire. Une chose toute bête, ce qui aurait plaidé en faveur d'une réforme étalée plutôt sur 3 ans, c'est que, conséquence, que les élèves d'ailleurs n'ont pas encore réalisé, pourtant on leur a dit, hein, c'est que les élèves de première vont s'inscrire au bac et vont passer les premières épreuves, donc les E3C, épreuves communes de contrôle continu. Bref, ils vont passer leurs premières épreuves qui vont compter pour le bac, là, au mois de janvier. Sachant qu'on sait depuis là, le printemps dernier, à peu près sur quoi nos élèves vont être évalués. Sauf que on n'a pas les grilles d'évaluation, c'est tout bête. Enfin, les grilles d'évaluation sont tombées le week-end dernier, mais elles ne sont pas forcément encore définitives. Et elles sont un peu différentes de ce qu'on faisait jusque-là. C'est-à-dire que même pour préparer mes élèves aux attentes, je ne sais pas encore vraiment sur quoi me fonder. Autre chose, voilà, moi je fais partie de ceux qui veulent garder un bac le plus anonyme possible, le plus national possible, et j'étais vraiment favorable à la correction des copies anonymées. Sauf que, en fait, la forme que ça va prendre, c'est probablement, on est en décembre, on parle de choses qui vont se passer en janvier, probablement des copies qui seront numérisées. Alors, numérisées par qui ? Parce que dans mon lycée, il y a un seul scanner, qui seront mises sur une plateforme qui, là, s'appelle, je crois, Cyclades. Donc là, c'est carrément les vacances. Et donc, corrigées en ligne, on ne sait pas trop qui. Alors, est-ce que ce sera académique ? Est-ce que ce sera dans le bassin ? Donc, par exemple, moi, je suis prof d'italien, on est deux à Arras, donc voilà. Tout ça, c'est extrêmement flou. Est-ce que la connexion, c'est la correction en ligne, est-ce que c'est-à-dire qu'on va consulter les copies en ligne ou est-ce qu'on va devoir corriger en ligne, c'est-à-dire avec en plus les risques d'être potentiellement un peu fliqué aussi. On va pas être libéré de temps de travail aussi, parce que jusqu'ici, on corrigeait les copies en juin. Les élèves étaient plus au lycée, on était chez nous. Là, on va devoir faire cours, corriger, concevoir des sujets. Et tout ça, en plus, nous est vendu comme étant une espèce de plus-value valorisante, tous concepteurs. Encore une fois, des choses très bêtes, c'est que jusqu'ici, les élèves pouvaient choisir, moi je suis prof de langue, pouvaient choisir d'être évalués dans la langue de leur choix, parce que c'était des sujets nationaux. Un élève qui était, je sais pas, dans une famille où on parlait turc, si le turc était pas enseigné dans son lycée, il pouvait le prendre au bac. Maintenant, c'est plus possible, puisque c'est en contrôle continu. En fait, finalement, enfin, moi, je vois des élèves qui sont peut-être même encore moins libres, alors qu'on leur a vendu de l'épanouissement, du choix. Et encore une fois, ce choix extrêmement précis, extrêmement libre, au contraire, on ne sait pas ce que ça va donner après en termes d'orientation. Donc voilà, on est dans le flou, donc tout le monde est extrêmement stressé. Les profs, peut-être plus que les élèves, parce que je crois que les élèves ne réalisent pas.
C'était justement la question que je voulais poser, comment les élèves vivent cette rentrée ?
Nous, on a quand même toujours l'impression d'avoir face à nous des gens extrêmement nonchalants. En fait, quand on creuse un peu, on voit qu'ils sont angoissés. Est-ce que c'est qu'ils n'ont pas connu l'ancien système, ou est-ce que, moi, c'est ce que je pense là de plus en plus, est-ce qu'en fait, ils n'ont pas compris que ça avait changé ? Et moi, j'ai beaucoup d'élèves là qui m'ont dit « Ah, mais madame, mais on passe le bac, mais cette année ? » Bah oui, on passe le bac cette année, alors que bah, je leur ai dit depuis la rentrée. Ils sont plutôt encore en train de se dire le bac c'est en terminale. Et en même temps, qui aurait pu les informer ? Parce que nous-mêmes, on a été informés au compte-gouttes. Moi, j'ai eu ma dernière formation là sur l'évaluation il y a une semaine pour des épreuves qui vont avoir lieu en janvier. Après, ben, forcément, hein, entre ceux qui vont être informés, qui vont déjà avoir de bonnes bases, ils vont s'en sortir, il n'y a pas de problème. Nous, on a très peur pour les plus fragiles. C'est toujours pareil, enfin, c'est les plus fragiles qui vont trinquer, hein, ceux qui sont... informés, qui accordent beaucoup d'importance à l'école, ça va toujours bien se passer. Moi, je m'inquiète pas. Par exemple, je m'inquiète pas pour mes enfants. Je m'inquiète pour mes élèves, voilà, les plus fragiles.
Ça a été un des arguments des gens qui se sont mobilisés contre cette réforme, c'est de favoriser le tri social, la sélection avant l'entrée dans l'enseignement supérieur.
C'est ce que je crains. Et puis même le choix des spécialités. Jusqu'ici, voilà, on nous a vendu de l'épanouissement, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner après, là, en termes d'orientation. Après, moi, je dis pas que l'ancien système était merveilleux. Hein. J'étais parmi les premières à critiquer l'hégémonie de la filière S qui mène à tout... qui est considéré comme une espèce de petit couvent à l'intérieur du lycée où les S doivent travailler. En fait, c'est toujours pareil, on croit qu'il faut changer l'école avant de changer le monde, quoi. C'est-à-dire que pourquoi les S étaient hégémoniques, c'est parce que le monde après n'offre du travail que pour des gens qui sortent de ça. Est-ce que c'est l'école qu'il faut changer ou est-ce que c'est pas plutôt le monde du travail après quoi, enfin, ou les deux en même temps ou, mais, et pas à cette vitesse, on change pas tout comme ça en un an, c'est pas possible quoi.
J'aimerais revenir maintenant sur les conditions de travail. Tu as parlé par exemple tout à l'heure de la mise en concurrence des professeurs. Aussi en termes de charges, est-ce que tu peux revenir sur, sur les conditions de travail, comment ça se passe là depuis la rentrée, ce qui a changé par rapport à avant?
Bah forcément, avec les nouveaux programmes, plusieurs niveaux qui sont modifiés en même temps, il faut bien donner à manger aux élèves, quoi, donc il faut préparer. Je sais que par exemple en histoire, ouais, je me mets à la place des collègues quand il faut refaire tous les programmes sur plusieurs niveaux, donc ça c'est beaucoup de travail. Préparer donc à des nouvelles épreuves qui sont un peu mystérieuses. Se concerter aussi, on nous demande beaucoup de nous concerter, parce qu'il y a alors certaines spécialités, notamment humanité, où ce sont des profs de philo et des profs de lettres qui sont censés travailler ensemble, mais il n'y a pas de temps dégagé pour cette concertation. Donc il faut, tout ça, ça se passe beaucoup sur un coin de table en salle des profs ou en ligne. Sachant qu'en ligne, c'est dématérialisé, donc ce n'est pas vraiment du temps, donc c'est chez soi. Moi, ce que je vois dans mon cas, moi qui suis enseignante en LV2, où là, donc c'est pas une option, c'est dans le tronc commun. Donc là, on est encore un peu protégé, on doit gérer ces E3C. Là. Mais moi, je suis aussi enseignante en LV3 donc en histoire des arts, c'est-à-dire en option facultative. Et là, nous, on est clairement directement concernés. Et c'est un gros chapitre aussi de cette réforme qui n'est pas forcément apparue tout de suite parce que le ministre nous a vendu, par exemple, le latin. Comme donnant des racines et des ailes, étant quelque chose de très important. Sauf que jusqu'ici, dans l'ancien bac, toutes les options facultatives, dont le latin, mais aussi l'italien LV3, histoire des arts, langue des signes. Donc il y avait une épreuve qui était une épreuve du bac à l'oral, qui était valorisée dans le compte des points du bac et qui était un vrai bonus pour le bac. Et en fait, maintenant, donc il n'y a plus d'épreuve. Ah donc on nous vend des élèves moins stressés parce qu'il n'y a plus d'épreuves. Mais donc les notes d'options, elles compteront. Alors ce sera très très bien dans Parcoursup, c'est ce qu'il faut dire aux élèves, ce sera très bien dans Parcoursup. Et leurs notes vont compter dans le contrôle continu, mais en fait pour une goutte d'eau. Donc on est censé avoir face à nous des élèves encore très 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 motivés parce que évidemment ils ont tout compris de leur futur et de leur avenir et 3 heures de plus par semaine c'est rien du tout face à tout ce qu'ils vont apprendre, c'est génial. Sauf que bah, dans les faits nous on a des élèves qui sont des enfants de 15 à 16 ans normaux qui ont envie de se reposer et qui n'ont pas forcément envie de venir faire une option facultative de 17 à 18 heures quand tout le lycée est endormi. Jusqu'ici, bah oui, c'était déjà difficile, mais on leur disait « Allez, ça va te donner un petit bonus pour le bac. » Maintenant, il n'y a plus ça. Donc, on a face à nous bah, des élèves, et bah, il faut les séduire, quoi. C'était déjà le cas, mais là, c'est encore pire, quoi. Il faut leur vendre du rêve, quoi. Il faut leur vendre des 18 de moyenne, des super voyages, des super sorties, un prof super sympa. Et puis, c'est pas grave si tu papotes avec ta copine, parce que après tout, c'est convivial. C'est très fatigant. Et ce qui est encore plus désespérant, c'est que ben, si, du coup, petit à petit, alors j'espère que ce ne sera pas le cas, hein, mais si on perd des élèves parce qu'ils sont moins motivés, parce qu'il n'y a plus cette carotte du bac, eh ben, on ne dira pas que le ministre a supprimé les options facultatives. On dira que tel prof, ben oui, il a perdu ses élèves, il n'y avait plus assez d'élèves, il ne les a pas motivés. Et c'est une énorme pression sur nos épaules de prof d'options facultatives. Parce que, et là, encore une fois, alors il y aura toujours un petit groupe d'élèves, alors pas dans tous les lycées déjà, à mon avis, qui aura besoin de faire plus que le tronc commun, qui aura des parents qui pourront lui dire, tu sais, c'est important de faire une langue de plus, de faire, voilà, d'apprendre autre chose. Mais déjà, voilà, pas forcément dans tous les lycées, pas tous les élèves, la plupart, ben, ils sont normaux, ils veulent se reposer, quoi. Ils veulent pas, avec un emploi du temps un peu éclaté, faire 3 heures de plus par semaine, des interros en plus, si on leur garantit pas un intérêt immédiat, quoi. C'est tout à fait normal.
Est-ce qu'il y a des consignes officieuses en interne? Bon, je pense notamment à l'idée des déclarations du ministre sur la bienveillance. J'aimerais savoir ce qu'on vous dit pour guider de manière un peu idéologique votre travail.
Il y a ce que disent les inspecteurs, il y a ce que disent les chefs d'établissement. Moi, l'impression que j'ai, alors c'est plus sur le temps plus long, même indépendamment de la réforme, c'est qu'on nous fait porter beaucoup. On nous fait porter beaucoup l'échec des élèves. En fait, on va artificiellement donner des bonnes notes ou ne pas forcément donner suite à des incidents qui se passent dans les classes pour pas stigmatiser, pour pas mettre les élèves en échec. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est nous qui sommes en échec et c'est nous qui en pouvons plus parce que... Et puis, on se monte un peu les uns contre les autres. Oui, il y a tel prof qui met des mauvaises notes. Les élèves ont dit que t'étais vraiment pas sympa. Les CPE aussi. Et oui, il y a une injonction très forte. Et encore une fois, c'est le monde du travail qui est violent. l'école, elle est à l'image de ça et on met un peu ça, oui, sur nos épaules. L'échec des élèves, c'est le prof qui s'est pas forcément encore assez investi. Alors, est-ce que c'est nous qui nous mettons cette pression ? Parce que c'est quelque chose de tellement insidieux qu'on entend partout, oui, qu'on est un peu, on a l'impression d'être des hommes préhistoriques qui, alors avec cette idée que les profs, en plus, c'était des bons élèves, donc eux, le système leur convient très bien, ils font comme ils ont eu eux à l'école parce que ça leur a plu à eux, ça a marché pour eux, ça marche pas pour tout le monde. Donc on est en permanence face, en plus, à des élèves qui sont devenus très consommateurs, qui sont pas mal aussi rivés à leurs écrans, et qu'il faut surtout pas les ennuyer. Et là où c'est vraiment des injonctions contradictoires, c'est que, par exemple, les nouveaux programmes ont été vendus parce que ce ministre a une image un petit peu à l'ancienne, un peu exigeante. On vend des programmes très difficiles avec des textes littéraires au programme en français. Nous, on sait très bien ce qui se passe dans les faits. Comme c'est intenable et qu'il y a un écart monstrueux entre ce que peuvent produire nos élèves et les attendus du programme, je sais très bien que tout le monde va avoir de très bonnes notes en italien. Parce que les barèmes sont faits de façon à ce que... Et je suis pas sûre que ce soit dans l'intérêt des élèves de mettre des bonnes notes qui ne reflètent pas un vrai niveau. Parce qu'il y a un moment où ils vont se rendre compte que dans la vie, tout le monde va pas être bienveillant avec eux. Et en plus, je me sens particulièrement bienveillante au quotidien. J'adore mes élèves, je veux qu'ils s'en sortent, je suis même protectrice, mais je crois pas que ce soit une bonne chose de mettre 18 à tout le monde et de dire « super, c'est vraiment vachement bien ce que tu as fait ». Voilà, et donc ça, ouais, c'est lourd. Et sachant que moi, j'ai pas en plus qu'il y a dans certains établissements ou dans certaines classes des difficultés en plus de comportement des élèves qui sont très souvent effectivement minimisées. Et ouais, ça devient beaucoup, là, ça devient lourd.
On est à la veille d'une grève nationale, d'une mobilisation qui... devrait être d'ampleur. Comment ça se passe dans les lycées, l'organisation, de la mobilisation ?
Moi, je fais partie de ceux qui ont fait les premières grèves contre la réforme du bac. C'était il y a du coup 2 ans, parce que je voyais ce qui allait se profiler. Voilà, on était un petit groupe, on n'était pas très nombreux. Et forcément, les collègues, c'est même pas pour leur reprocher. On est dans le quotidien, on a beaucoup de boulot, il faut gérer les classes. Et on était assez seuls. Petit à petit, donc là, il y a eu un petit réveil en juin. Bon, moi, j'aurais préféré que ce soit juin d'avant, parce qu'on savait déjà ce qui allait se passer. Mais bon, c'était juin dernier. Un petit réveil avec le blocage de certaines épreuves du bac. Et puis là, moi, ce que je vois là en ce début d'année, c'est que comme on a les problèmes sous les yeux, beaucoup de collègues qui commencent à craquer, alors que c'était plutôt des gens assez... pas tellement critiques jusque-là. Après, je sais pas ce que ça va donner en termes... On commence à se compter un peu là dans mon lycée, on est plus nombreux que d'habitude très clairement parce que les retraites c'est la goutte d'eau quoi. Enfin, on fait en plus partie des fonctionnaires qui vont le prendre le plus cher avec cette réforme, sachant qu'il y a déjà, une réflexion de fond sur le... Moi j'ai beaucoup de collègues qui ont du mal à s'en sortir en fait financièrement parce qu'en fonction du statut, de l'ancienneté... des collègues qui ont vraiment des salaires qui ne correspondent pas du tout à leur formation, à la charge de travail qu'ils ont. Et si en plus on leur dit qu'à la retraite, ils vont avoir une retraite de misère, là c'est vraiment la goutte d'eau. Et je pense que, je ne sais pas si c'est seulement au lycée, parce que j'ai mon conjoint au collège, ça a l'air de bien, ça va être, je pense, assez suivi aussi. Mais je pense qu'au lycée, les collègues qui n'en peuvent plus avec la réforme, ça s'accumule en fait. Là c'est vraiment la goutte d'eau. Et ce n'est pas seulement la colère. Moi je vois des collègues qui vont mal, qui sont vraiment en souffrance. Enfin, je vois vraiment des gens, et en plus avec cette contradiction avec l'image publique du prof qui est là à glandouiller, tranquillou, ses vacances et tout. Moi, je vois des gens qui veulent faire bien. Et c'est pour ça que ça me révolte encore plus qu'on cherche à nous monter les uns contre les autres, parce que moi, je vois dans toutes les disciplines des gens qui veulent faire bien, qui veulent faire réussir leurs élèves. Et qui, là, sont épuisés, quoi, et qui trouvent ça trop difficile.
À notre micro, Sarah, professeure d'italien et d'histoire des arts, adhérente à la CGT Éducaction, au sujet de la mise en œuvre de la réforme du bac et de ses effets sur la vie des élèves et des enseignants.